BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG. On parle, vous avez pris l'habitude, hein, si vous nous regardez, et d'ailleurs allez voir les autres en replay, on vous parle régulièrement de ces COP, hein, ces conférences pour le climat, l'environnement. On est déjà à l'édition numéro 28. La COP 28, ce sera du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Et nous avons nos experts ici qui sont là pour nous en parler déjà, nous donner un peu les grands enjeux. Avec nous, Patrick Dupoux, qui est directeur associé senior au BCG, responsable Afrique notamment. Bonjour
Frédéric. Patrick.
Et Michel Fredo. Bonjour Michel.
Bonjour.
Directeur associé senior au BCG également et en charge climat-environnement. Et d'ailleurs, on va démarrer avec vous Michel. Voilà, en quelques mots. Alors c'est vrai, la COP 28, ça existe depuis dans les années 90. Hein,
28 ans.
C'est ouais, bah voilà, il faut calculer.
Choc, choc. Enfin, 29 avec le Covid.
J'étais en train de faire le calcul mental. Oui, c'était à Berlin la première, par contre.
C'est ça.
Et alors, rappelez-nous un peu le but un peu de ces COP. Alors on se fixe des objectifs, mais voilà, on n'arrive pas toujours à les tenir. Mais alors, racontez-nous.
Donc c'est un événement important parce que je vous rappelle quand même que c'est lors de la COP de Paris à l'époque où le monde s'était mis d'accord sur un objectif de bien en dessous de 2 degrés, avec 1,5 comme cible. Et c'est depuis ce temps-là, qui était une COP importante, tout le monde travaille en fait au niveau des pays, mais aussi au niveau des industries, au niveau de l'ensemble des acteurs, à mettre en place les transformations et les actions qui sont nécessaires pour y arriver.
On avait enfin eu quelque chose de chiffré où on pouvait, voilà,
référence sur laquelle le monde entier était d'accord, sachant que les scientifiques nous disent 1,5 degré, mais enfin ensuite les différents pays, dont la Chine, avaient insisté sur le fait que bien en dessous de 2 degrés devait suffire vu leur développement économique. Donc il y a quand même des avancées qui se situent, qui sont difficiles dues au processus des Nations Unies qui demande en fait l'unanimité sur l'ensemble des actions et sur l'ensemble des déclarations. Mais ce qui n'empêche pas chacun des pays de faire ses propres déclarations, et de plus en plus les entreprises sont présentes et sont très actives.
On a fait d'ailleurs, je conseille tous ceux qui nous regardent, s'ils veulent aller voir en replay, on avait reçu la SNCF, on avait reçu plusieurs entreprises qui étaient à la précédente ou à celle d'avant comme COP et qui témoignaient justement de ce qu'elles mettaient en œuvre pour répondre à ces enjeux.
En tout cas, celle-là, il y aura plus de 80 000 personnes qui sont attendues, donc il va y avoir quand même une participation très forte. Et sur les 198 États que comprend le monde, au moins 150 chefs d'État qui seront présents au moins dans les premiers jours.
Donc des négociations entre les États, des témoignages entreprises, c'est ça. Et puis, pourquoi c'est important ?
C'est important parce que, à la fois, c'est des engagements de pays et d'entreprises, et surtout pour cette COP-là, comme on va en discuter, c'est l'occasion qui avait été prévue à Paris, après cet engagement sur bien en dessous de 2 degrés, de faire la photo de là où on en est, où le monde en est, aujourd'hui, dans ce trajet, dans cette trajectoire vers 1,5 degré.
Patrick, c'est un Patrick Dupoux, c'est important là, c'est comme pour, alors on sait que le climat, l'environnement, tout ça, ça doit faire partie de notre ADN maintenant, à nous citoyens, aux entreprises, aux administrations, aux États. Pourquoi ça va un peu plus vite et est-ce que cette COP peut permettre justement qu'on aille plus vite?
Tout d'abord, c'est intéressant de rappeler, parce que beaucoup de gens en fait remettent en cause le principe même d'avoir ces grandes conférences climat. Faut rappeler que dans les années 80, le grand enjeu environnemental, c'est la couche d'ozone.
Ah oui.
Et le problème de la couche d'ozone a été résolu par une conférence qui s'appelait COP d'ailleurs, conférence des parties, sous l'égide des Nations Unies, où l'ensemble des États se sont mis d'accord pour arrêter les gaz CFC qui étaient responsables de la dégradation de la couche d'ozone. Et donc, même si aujourd'hui on peut remettre en cause et se poser la question devant l'immensité du problème représenté par le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, on a quand même un exemple de COP qui avait débouché sur une décision mondiale de mettre fin à ces gaz CFC et qui permet aujourd'hui finalement qu'on ne parle plus de la couche d'ozone qui est en train de se reformer. Donc le principe des COP, pour moi, est essentiel. Ça met de la pression dans le système, ça permet d'exister médiatiquement, ça permet de s'assurer que tout le monde a un point de rendez-vous pour en parler et aussi pour faire un peu un reporting des progrès et des retards.
Alors, elle est quand même celle qui arrive. Elle se déroule à Dubaï. Voilà, je vous fais pas de dessin. Vous voyez un peu. Vous savez qu'on a déjà eu une Coupe du Monde de foot dans ces régions-là, en se disant mais c'est aberrant de la faire à ce moment-là. Là, on a un pays donc très producteur de pétrole. Alors voilà, il y a un peu de critique quand même autour de cette conférence, Michel.
En effet, et en plus, si on veut rajouter à la critique, il se trouve que le président de la COP cette année est le président de la société pétrolière des Émirats Unis.
Voilà.
Du côté positif, parce qu'il faut, je pense que notre message en général, c'est il faut positiver parce que le monde doit avancer.
On trouvera toujours des critiques, hein, si on l'a fait en Asie.
Absolument, et c'est quand même l'occasion d'avoir une opportunité à ce que l'industrie pétrolière soit plus associés aux discussions climat. Parce que les sociétés pétrolières ont une action importante en termes de moyens de financement, de compétences pour accélérer cette transition énergétique dont on a besoin et dont on va discuter. Bon, enfin, ensuite, il faut pas non plus exagérer parce que le rôle du pays organisateur n'est pas d'influencer les négociations.
Oui.
C'est le processus des Nations Unies qui opère. Et donc, son rôle, c'est de mettre en place l'agenda et de procurer les moyens au pays d'avoir les meilleures discussions possibles, certainement pas d'influencer ces discussions.
Après, si ça peut les faire bouger, parce que justement, ça va faire un gros zoom pendant, un gros coup de projecteur, en tout cas, sur ces questions-là, pendant plusieurs jours, là, c'est Dubaï, pourquoi pas. Et c'est là, on va examiner aussi, alors c'est le premier bilan mondial de l'action, hein, c'est le GST. Hein,
le GST, Global Stock Take.
Voilà.
Alors, le Global Stock Take qui suit en fait les recommandations de Paris. Hein. On répétera jamais assez l'importance de la COP de Paris sur l'agenda climat. Et donc, non seulement on s'était mis d'accord à un objectif à moins de 2 degrés, mais on s'était aussi mis d'accord sur un processus pour suivre les progrès. Parmi ces étapes, c'est le GST qui arrive à la COP28, donc qui a été préparé, dont on connaît déjà les résultats. On est en retard et qui suit la structure qui avait été proposée à l'époque dans les accords de Paris.
Voilà, donc, si vous nous suivez en radio, je vous conseille d'aller en télé justement pour voir parce que on vous donne donc, un peu quelques chiffres.
Voilà, on a quatre éléments fondamentaux. Il y a un premier élément qui est la mitigation, donc la réduction des émissions pour pas aggraver le problème, où, en fait, pour être sur une trajectoire à 1,5 degré, pour rester sur cette trajectoire, les scientifiques nous disent qu'il faut réduire les émissions de 43% par an tous les ans. Or, jusqu'à présent, on les a augmentées plutôt de 11%. Donc, le chemin est long, est loin. Et donc, il va falloir accélérer cet élément-là. Comme il y a des forts risques, malheureusement, qu'on dépasse cet objectif et qu'on se retrouve dans une situation où le changement climatique, en fait, s'accélère, il y a aussi un volet d'adaptation qui est fondamental pour adapter aux effets climatiques nos géographies, nos populations. Et là, par rapport aux 160 milliards qui avaient été estimés à l'époque comme étant nécessaires, on est malheureusement que à 30 milliards, donc on est loin du compte.
Loin.
Et ce 160 milliards va augmenter de façon significative si on continue à dépasser nos objectifs en termes de réduction. Mmh. Le troisième élément, c'est les pertes et préjudices pour ces pays comme les États insulaires ou des pays qui sont fortement fragiles, qui sont sujets aux événements climatiques, pour les aider, un fonds spécial pour les aider, où on s'était mis d'accord que c'était de l'ordre de 300 milliards qu'on avait besoin pour leur apporter l'aide nécessaire. Et là, on a une fraction négligeable.
10 fois moins.
Même 100 fois moins.
100 fois moins.
Quelques centaines de millions de dollars et pas plus. Et là-dessus aussi, il va falloir qu'on avance de façon importante. Et le dernier volet, évidemment, c'est le volet finance. Pour pouvoir assurer toutes ces transformations et cette adaptation nécessaire, c'est de l'ordre de 4 000 milliards par an qu'il faut. Et pour l'instant, on est à 650, 700 milliards. Et donc, il y a un vrai besoin d'accélérer le financement. Donc c'est les quatre éléments qui sortent de ce diagnostic.
Et donc cette COP28, ça va être de dire aux gens attention, il faut accélérer sur les engagements qui sont pris pour justement arriver à cette deuxième ligne là que vous donnez pour arriver.
Alors non seulement d'accélérer parce que je pense que tout le monde est d'accord d'accélérer, mais de se mettre d'accord aussi bien du point de vue de la régulation et de ce que vont dire les États que sur du point de vue de l'action. De quels sont les éléments qui sont nécessaires pour que cette accélération puisse avoir lieu. Mmh. Et c'est de ça qu'on va discuter plus en détail.
Et alors Patrick, les sujets de discussion ne manquent pas, hein, puisque ben, Michel vient de le dire, on aurait dû réduire et on est plutôt en train de progresser, enfin notamment pour les émissions de gaz à effet de serre.
on continue de malheureusement d'émettre de plus en plus. Alors l'accélération ou en tout cas la croissance des émissions annuelles s'est ralentie. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais pas du tout assez. On devrait déjà être en train de les réduire. Parce que pour faire moins 43% en 2030 versus par rapport à aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait déjà chaque année commencer à les réduire.
Comment raboter un peu l'augmentation, oui. Mais voilà.
Mais pour l'instant, on les réduit pas.
Pas faire fléchir la flèche.
Et en fait, on a essayé de comprendre un peu mieux où est-ce qu'on en était dans les actions. Et malheureusement, c'est pas brillant parce que on vient de publier un rapport avec le World Economic Forum. Vous avez seulement un tiers des émissions mondiales qui sont dans des pays qui ont publié des engagements net zéro pour 2050. Bon, qui est la condition nécessaire. Donc seulement un tiers des émissions sont dans ces pays-là. Et en plus, une fraction seulement ont déjà voté les lois et mis en place ce qui permettra d'atteindre ces objectifs. Et donc, il faut que plus de pays s'engagent. Au niveau des entreprises, on a seulement 20% du top 1000 mondial qui a aussi publié des engagements de réduction d'émissions en ligne avec les objectifs de la science, qui est l'unique boussole. L'unique boussole, c'est la science. Mmh. Et donc, ce qu'on appelle les science-based targets, SBTI, aujourd'hui, seulement 20% des entreprises se sont déjà rentrées dans ce cadre-là. Alors, ça augmente chaque année, mais c'est pas suffisant, il faut accélérer. Et au niveau des technologies, on sait qu'on maîtrise à peu près les technologies qui vont permettre de réduire de moitié les émissions d'ici 2050. Énergie renouvelable, nucléaire, efficacité énergétique, véhicules électriques, ça on le maîtrise à peu près, il faut juste accélérer. Mais il y a toute une série de technologies dont on a besoin et qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc tout ce qui est capture du carbone, séquestration, certaines autres technologies qui permettront aujourd'hui d'atteindre, enfin dans quelques années, d'atteindre les 50% restants. Donc on doit aussi accélérer sur la recherche, sur les technologies et sur les investissements.
Et puis sur le financement aussi, oui c'est ça, hein, sur le financement.
Et alors le financement, je pense que Michel en a parlé, on est très en retard.
Voilà, alors justement Michel, compte tenu de ce bilan, qu'est-ce qui va être? Alors il y a beaucoup de sujets, hein, transition énergétique, on va parler de financement justement, peut-être des pays en voie de développement, parce que tout le monde n'avance évidemment pas à la même vitesse selon son niveau de vie, enfin les priorités de chacun. De quoi on va parler pour cette COP28, je le rappelle, hein, 30 novembre, 12 décembre à Dubaï.
Donc cette COP28 va être centrée sur l'ensemble des actions et des éléments qui sont nécessaires pour combler le trou qui existe aussi bien au niveau de la mitigation, de l'adaptation que du point de vue du financement. Je vais commencer par la transition énergétique parce qu'on est quand même dans un pays où l'énergie est assez fondamentale. Le premier thème sur lequel les pays vont devoir se mettre d'accord et dans les négociations qui va être important, c'est le triplement des énergies renouvelables. D'abord discuter de qu'est-ce que ça veut dire cette transition de passer des énergies fossiles à des énergies propres. Donc c'est le triplement des énergies renouvelables au niveau mondial, et c'est le doublement de l'ensemble des efforts d'efficacité énergétique pour être plus efficace dans la façon dont on dépense l'énergie. Et le premier thème.
Tripler la production, c'est-à-dire qu'en parallèle, on doit réduire tout ce qui est énergie fossile. C'est
cet accompagnement des deux qui est un petit peu compliqué, parce que l'énergie fossile doit réduire de l'ordre de 50 à 60% aujourd'hui, à 20 à 30% selon les différents scénarios du GIEC à l'horizon 2050. Donc divisé par deux. Mais pour passer de l'un à l'autre de façon juste et de pas se retrouver dans une situation où on ampute le développement économique et en particulier des pays émergents, il faut s'assurer que le développement de ces renouvelables et ce triplement se passe. Or, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas qu'un problème de financement. C'est aussi un problème de compétences. Et il faut pas oublier que c'est pas uniquement de développer des éoliennes et des capacités solaires. C'est tout le système électrique qu'il faut changer, qui représente aussi des investissements très importants.
Oui, puis donc, il faut avoir les formations aussi, il faut avoir les gens pour installer ça,
absolument.
Pour maintenir. Pour
donc, c'est à la fois le développement des renouvelables, la décroissance des énergies fossiles et sur la demande d'agir sur les secteurs en particulier à fortes émissions comme la sidérurgie ou le ciment, de manière à les aider à électrifier et à réduire leurs émissions. Le dernier point fondamental par rapport aux énergies fossiles, c'est que comme on va en avoir besoin quand même pendant un moment, s'assurer que à minima l'ensemble de la production est décarbonée pour ces gens-là, et en particulier le méthane. Le méthane sera un sujet très important pour cette COP, ainsi que la décroissance accélérée du charbon. Donc ça, c'est pour l'énergie, pour la transition énergétique. Mais il y a toute une batterie d'éléments qui vont devoir être précisés et sur lesquels on va se mettre d'accord, sur l'adaptation, et en particulier, au-delà du financement de cette adaptation, de traiter correctement tout ce qui est agriculture et système alimentaire qui vont être très sujets aux événements climatiques et qui sont aussi contributeurs aux émissions. Donc l'agriculture et l'alimentaire seront un thème très important, mais aussi la nature et la restauration de la biodiversité. Et pour la première fois, la santé sera élaborée. Parce qu'il faut savoir que le réchauffement climatique, c'est 100 millions de personnes par an qui passent dans la pauvreté à cause de ces événements climatiques. Le financement de la transition, enfin, qui est un vrai problème, il faut distinguer les pays développés, occidentaux, qui ont en fait les moyens, c'est simplement de canaliser ces investissements-là vers la transition énergétique. Donc vous avez vu ce qu'a fait les États-Unis, vous avez vu le Green Deal européen. Donc ces pays-là ont les moyens et la volonté de s'y engager. Par contre, pour tout ce qui est les pays en développement, il va falloir les aider. Ils font face à des taux d'endettement très forts, à des coûts du capital qui sont très élevés. Et donc, tout ce qui est réforme des institutions financières internationales, des banques de développement, et d'intégrer de plus en plus les fonds philanthropiques, de manière à dérisquer ces investissements-là, seront fondamentaux. Donc ça, c'est pour la partie financière. Et enfin, sur le fonds pertes et profits, j'en parlais tout à l'heure, un bon espoir que cette année, on va pouvoir présenter au niveau mondial, un fonds qui soit opérationnel, de manière ensuite, dans les années suivantes, pouvoir le financer.
Ouais, là, c'est le dédommagement, c'est ça?
C'est le dédommagement.
C'est un peu cette idée. Dans tout ça, il faut évidemment pas oublier l'humain, tout ce qui est inclusion, pour faire comprendre aux gens pourquoi c'est important pour eux, pour nous, pour leurs enfants. Patrick, vous, justement, on parle des pays émergents, vous travaillez plus particulièrement avec l'Afrique. Hein. Alors, les sujets importants pour ces pays, on imagine la transition énergétique, c'est l'eau, c'est tout ça, expliquez-nous.
Alors, c'est les mêmes problèmes, mais avec un prisme un petit peu différent. Sur la transition énergétique, vous avez 600 millions d'habitants dans le monde qui aujourd'hui n'ont pas d'accès à l'électricité et l'énergie. Et quand vous n'avez pas d'énergie et pas d'électricité, il n'y a pas de développement. Ouais. Pas développer une industrie, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est difficile, eux, de leur dire de réduire leurs émissions parce qu'elle est nulle aujourd'hui. Et donc, la question se pose plutôt à comment on leur permet d'avoir accès à l'énergie, mais avec des modes de production qui sont peu émetteurs de charbon et probablement aussi un peu de gaz comme énergie de transition pour permettre de s'industrialiser. Donc ça, c'est sur la transition énergétique. Sur les financements, Michel l'a dit, le vrai problème des pays émergents, c'est le coût du capital. Si vous voulez mettre une ferme solaire ou éolienne au Nigeria, vous payez des taux d'intérêt de 15 à 20%. Or, les renouvelables, c'est essentiellement des investissements. Et ensuite, vous payez les intérêts. Et donc, si jamais c'est 20%, c'est très compliqué de le rendre bancable. Et donc, il faut aider à... C'est pas des dons, c'est en fait dérisquer l'investissement, réduire le coût du capital pour permettre qu'il y ait des investissements qui puissent se produire. Et puis évidemment, Michel l'a dit, les pays les émergents sont les plus touchés par le réchauffement climatique. Ils sont pas responsables, mais ils sont touchés. Et donc tout ce qui est autour de l'adaptation, des pertes et préjudices, est important pour eux. Peut-être le dernier point, c'est qu'il y a aussi des choses plus positives qui vont être négociées sur les pays émergents. C'est comment en fait ils peuvent bénéficier de la transition énergétique. On parle des marchés carbone, par exemple. Le marché carbone, ça va générer une activité économique qui va essentiellement se produire dans les pays du Sud, la reforestation, l'agriculture régénérative, ou encore l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables. Donc là où on a du soleil et du vent, et là effectivement un certain nombre de pays ont une vraie carte à jouer.
Et Patrick, il y a beaucoup d'enjeux aussi autour de l'agriculture.
Alors c'est vrai que quand on parle climat, on pense énergie, on pense émissions. En fait, l'agriculture, c'est plus du quart des émissions mondiales. Et donc si on arrive à produire autant, mais en émettant moins de gaz à effet de serre, par exemple en utilisant moins d'engrais azotés qui émettent beaucoup, il n'y a pas que le carbone qui émet, il y a aussi le N2O et d'autres gaz, c'est un enjeu important. C'est aussi un puits de carbone important, l'agriculture. Donc si on a des technologies ou des techniques qu'on appelle régénératives, où on évite de labourer le terrain, quand vous labourez, vous sortez le carbone et vous l'envoyez dans le ciel. Si vous valorisez la biomasse, il y a différents moyens de finalement jouer ce rôle de puits de carbone. Et puis de manière générale, la première conséquence du changement climatique, ça va être la perte de productivité agricole dans des pays très fragiles, la zone sahélienne par exemple. Et donc il faut tout de suite se préparer, adapter ces agricultures pour qu'elles soient plus résilientes et mieux préparées, non pas au climat d'aujourd'hui, mais au climat de dans 10 ans ou dans 20 ans.
Est-ce que ça veut dire que la technologie, enfin je pense que la réponse est oui, mais alors comment elle va le faire? La technologie, l'intelligence artificielle peuvent aider à lutter contre ce réchauffement climatique? Enfin, c'est quoi les pistes là?
Alors l'intelligence artificielle fait souvent peur.
Ouais.
Bon, elle a aussi des bons côtés. Il se trouve qu'elle peut avoir des bons côtés dans la lutte contre le changement climatique. Vous avez un certain nombre de modèles qui utilisent l'intelligence artificielle qui peuvent être très importants. Par exemple, sur l'adaptation, pouvoir prévoir de manière très précise quel sera l'impact physique du climat dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en utilisant les modèles climatiques, en utilisant les topographies de terrain, en utilisant les cartes des sols, permet au pays de beaucoup mieux se préparer. Dans l'agriculture, vous pouvez avoir une cartographie des sols qui permet de savoir exactement quels engrais on va utiliser et donc d'en utiliser moins. Et donc, ces modèles d'intelligence artificielle, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, aux pays du Sud, en modèle open source, si possible gratuit. Et donc, on a pris une initiative avec un certain nombre d'entreprises de la tech.
AI for the Planet.
AI for the Planet, voilà, que nous avons présenté à l'UNESCO il y a quelques jours, avec des centres de recherche, avec des universités, pour mettre à disposition un certain nombre des potentialités de l'intelligence artificielle pour lutter contre le réchauffement climatique.
Bon, Michel Fredo, ça bouge plutôt pas mal alors. Dans quel état se trouvent justement ces entreprises aujourd'hui? À quelques jours, j'imagine, il y a une certaine pression qui s'exerce sur elles, et puis en même temps, elles savent qu'elles doivent montrer l'exemple, montrer des cas d'usage. Enfin, elles sont conscientes qu'il faut bouger de toute façon.
Donc c'est ça, c'est pression et opportunité en même temps. Alors la pression, c'est qu'elles sont, elles se sont engagées quand même la plupart sur des objectifs climat qui sont particulièrement difficiles à réaliser dans certaines conditions. Alors c'est vrai que le contexte est en train de changer parce que, en tout cas dans les pays occidentaux, à travers l'IRA aux États-Unis avec leur plan massif de réinvestissement dans l'industrie américaine, ou le Green Deal en Europe, on a quand même un contexte financier qui doit aider, ou régulatoire, qui doit aider les entreprises à avancer. Enfin, d'un autre côté, le contexte économique et géopolitique en ce moment est très difficile. Et en particulier, quand on regarde les objectifs de décarbonation de leur chaîne de valeur pour les entreprises, et en particulier sur tout ce qui est achat d'énergie et donc disponibilité du renouvelable, par rapport à l'engagement du triplement de cette capacité-là, qui n'est pas encore là, ça peut être difficile de réaliser ces objectifs-là. Enfin, ceci dit, même si le contexte, il y a des éléments positifs ou négatifs, je pense qu'elles n'ont pas le choix, et que les entreprises qui se transformeront le plus rapidement, en fait, vont développer un avantage concurrentiel qui sera difficile ensuite pour ceux qui ne l'ont pas fait, à rattraper.
Et est-ce que ça veut dire que dans l'action qu'elles doivent mener aussi, donc il faut y aller, mais peut-être pas y aller tout seul non plus, hein, souvent on travaille en écosystème.
Alors cette transformation,
quitte à travailler avec ses concurrents parfois.
Tout à fait. Donc c'est l'ensemble de la panoplie de la transformation de votre industrie dont on parle. Et bon, donc ça dépend fondamentalement d'une industrie à l'autre. Enfin, quand on regarde, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça commence par les fournisseurs. Et quel fournisseur je vais choisir et comment je vais aider mes fournisseurs à décarboner leurs propres opérations avec un certain nombre d'acteurs qui même aident leurs fournisseurs à avoir accès à de l'énergie renouvelable ou à des technologies qui leur permettent de décarboner, mais également de travailler avec leurs clients pour faire évoluer leur portefeuille de produits vers des produits décarbonés et avoir des clients qui s'engagent sur l'achat de ces produits-là. Donc vous avez déjà des sociétés automobiles qui s'engagent sur de l'acier décarboné, ou qui s'engagent des transporteurs qui s'engagent sur du fuel décarboné, de manière à ensuite pouvoir s'adresser à leurs fournisseurs et qui peuvent engager ces investissements donnés, ou qui s'unissent entre eux comme dans des coalitions, comme dans le First Mover Coalition, où des acteurs de nature différente s'engagent sur des volumes qu'ils vont acheter de produits décarbonés dans le futur.
Voilà, donc l'action auprès de leurs concurrents, avec d'autres industries, avec les pouvoirs publics aussi notamment. Il nous reste moins d'une minute là pour conclure, Michel. Vous êtes optimiste quand même pour cette COP28 rappel, hein, Dubaï, 30 novembre, 12 décembre.
Moi, je crois que ce n'est pas optimiste ou pessimiste. C'est quelles actions vont être prises et quelles actions doivent être prises. Donc, les actions qui doivent être prises, c'est le déclin rapide du charbon et du méthane. C'est les deux contributeurs les plus importants et les plus urgents à réduire au niveau des émissions. C'est les 100 milliards, parce que c'est un problème de crédibilité du Nord vis-à-vis du Sud. On les a promis depuis 10 ans, il faut qu'ils soient là. Et qu'on discute aussi de la prochaine vague de support qui sera nécessaire. Et enfin, cette mobilisation sur les énergies renouvelables. Et un engagement des pays de revoir leurs engagements spécifiques de manière à ce que au Brésil, quand on va revoir la copie, on soit plus à 2,6 degrés comme on l'est aujourd'hui, mais bien en dessous de 2 degrés.
Voilà, bien en dessous des 2 degrés depuis les accords de Paris. Merci à tous les deux, Michel Fredo et Patrick Dupoux, donc l'un et l'autre directeur associé senior au sein du BCG, qui est notre partenaire pour ces BFM Stratégie. Voilà, on vous a donné les enjeux de la COP28. À vous maintenant d'aller regarder, écouter, peut-être vous rendre là-bas, mais enfin, on peut le faire ici en visio. Depuis, à partir du 30 novembre et jusqu'au 12 décembre, c'est la COP28. C'est à Dubaï et je crois qu'on vous a un peu dessiné tous les enjeux à vous et pour votre entreprise aussi. Hein, c'est important, justement. Justement, regardez bien les programmes et bien voilà, il ne vous reste qu'à écouter et à apprendre. Merci de nous avoir suivis.
Merci.
BFM Stratégie sur BFM Business.